Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Meet Lamitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux.
Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes & Slobber, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Meet Lamit, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Harold. Salut Harold.
Salut Meet.
Alors, Harold, tu es pas exactement un membre de la belle famille de Carfoncé, mais bon, t'es un petit peu un aficionado de Hot Takes & Slobber. Hein. On te retrouve assez régulièrement sur nos ondes.
C'est vrai. J'ai l'honneur d'être de temps en temps invité dans cette émission.
Ah, c'est toi qui me fais un immense honneur en acceptant les invitations à chaque fois. Donc, pour cette émission, on va parler d'une anecdote que m'avait racontée un autre ami et qui m'a évoqué une hot take qu'on va pouvoir développer ensemble. Donc, il y a quelques temps, sur le PSP, plus, il y a parmi les jeux gratuits du mois, je sais plus quand c'était exactement, mais ils avaient donné le remaster de Sonic Colors. Donc, Sonic Colors qui était sorti en 2010 sur Wii et sur Nintendo DS. C'est deux jeux très différents, mais donc voilà, il était sorti à cette époque-là. La version Wii était longtemps restée bloquée sur cette console et quelques années ils ont ressorti un remaster pour PS4 et compagnie. Je peux même te trouver l'année exacte 2021, si je dis pas de bêtises.
Ça tombe très bien que tu parles de ce jeu parce que j'en ai jamais entendu parler avant.
T'en as jamais entendu parler. Non,
je alors, suis. Pas... Je, ben, pour faire une référence à un autre podcast studio Carton C, je pense que je suis l'anti-Pix. Je suis le mauvais élève.
Ah non, mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de connaître le jeu. Puisque je vais faire des descriptions de ce qui se passe dans le jeu, enfin, de ce qui est important à savoir pour le jeu, donc t'inquiète pas pour ça. Sonic Colors, c'était. C'était un peu. C'était un peu une bouffée d'air frais quand il est sorti parce que avant ça, on avait eu le Sonic 2006 horrible sur Xbox 360 et PS3. On avait eu Sonic Unleashed avec son hérisson Garou qui était quand même pas facile à appréhender. Et le changement de gameplay était assez déroutant. Et puis là, ils avaient sorti Sonic Colors et on jouait que Sonic pendant tout le jeu. On avait les petites bestioles là, les wisps qui permettaient d'avoir des pouvoirs qui servaient sur des sections bien délimitées de chaque niveau. Et tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'ailleurs la matrice de Sonic Colors a quand même beaucoup servi après pour faire Sonic Generation en 2011, puis pour faire Sonic Forces en 2017. Tous ces jeux-là, en fait, c'est des jeux qui se sont vraiment appuyés sur Sonic Colors pour devenir ce qu'ils étaient.
Les Wisps, il faut un peu le voir comme les différents power-ups qu'on pourrait avoir dans un Mario, quoi. Genre les chapeaux dans Mario Odyssey ou genre les différents bonus qu'on pourrait avoir dans Super Mario World, c'est ça?
Les chapeaux dans Mario Odyssey, c'est une assez bonne comparaison parce que ça va transformer Sonic et ça va vraiment changer le gameplay le temps où t'es transformé par le Wisp.
OK.
Donc il y en avait de différentes couleurs. C'est pour ça que le jeu s'appelle Sonic Colors et ils étaient vraiment la base du gameplay, c'était très sympa. Mais voilà, donc le copain qui avait téléchargé le jeu, il a dit moi j'ai fait 2-3 niveaux, enfin je m'étais dit je vais me faire un petit jeu de plateforme tranquille, et puis j'ai fait 2-3 niveaux, ça m'a saoulé, j'ai désinstallé. Ce qui est d'ailleurs un petit peu aussi l'expérience que j'ai eue avec le Sonic Colors Ultimate là, que j'avais aussi pris, et c'est pareil, j'ai fait 2-3 niveaux, ça m'a saoulé et j'ai arrêté d'y jouer. Ce qui m'a un peu étonné parce que même si j'avais pas fait Sonic Colors sur Wii, je l'avais fait sur DS et je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Et Sonic Unleashed, moi je trouvais qu'il était ok, surtout les niveaux où tu cours avec Sonic. Sonic Generation, je l'aime beaucoup, je l'avais refini il y a quelques années en plus de l'avoir bien rincé sur Xbox 360 à l'époque. Et je me suis demandé, mais pourquoi je me sens tellement pas le bienvenu dans le jeu, et pourquoi est-ce que j'ai l'impression de n'arriver à rien, alors que bon, c'est censé être voilà petit jeu de plateforme tranquille quoi, c'est Sonic, il y a des couleurs, c'est mignon, et donc je me suis dit il y a quelque chose qui se cache là-dessous, et peut-être que si je reprends un petit peu les Sonic en 3D depuis Sonic Adventure en 1999, peut-être que je vais trouver quelque chose et que ça va répondre à la question de pourquoi, après avoir aimé tous ces jeux, là, Sonic Colors, il m'est tombé des mains.
Ouais, c'est vrai, en plus, j'étais toujours connu comme un grand fan des différents opus qui sont sortis.
Ah ouais, j'en ai joué à beaucoup, hein. J'ai pas joué à tous, mais j'ai joué à beaucoup, hein. Pour revenir à tout ça, je sais que toi, ton expérience de Sonic, elle est un peu plus limitée, on va dire.
Oui, clairement.
Mais
je t'ai vu jouer, je pense plus que j'ai moi-même joué à Sonic. Et je me rappelle surtout Sonic Adventure 2 et Ciao.
Ouais, ils étaient aussi dans le premier Sonic Adventure. Mais je me rappelle aussi que toi, tu avais acheté en promo Sonic Adventure 2 sur Steam.
C'est vrai.
Tu as tenu une dizaine de minutes avant de le désinstaller. Peut-être moins.
C'est marrant, je me rappelle même pas l'avoir installé. Mais c'est vrai que je l'ai.
Bon, après, c'est un jeu un peu spécial, mais quand on sait apprécier ce qu'il a à offrir, je pense que c'est encore une expérience plutôt honnête. Mais donc, ouais, il y a une particularité sur les... oui, vas-y.
Je passe des images en même temps, là. Enfin, des vidéos. Sonic Colors est un jeu 2D, mais l'Ultimate Edition est un jeu 3D.
Alors non, Sonic Colors sur DS était un jeu 2D qui était basé sur l'architecture des Sonic Rush, qui étaient des jeux DS en 2D.
Okay.
Le Sonic Colors de la Wii, c'est le même que le Sonic Colors Ultimate. C'est le même jeu, mais en HD.
Ok.
Il y a d'ailleurs des gens qui ont beaucoup râlé sur ça, parce que c'était entre guillemets juste le même jeu en HD. C'était un peu... Bah, disons que c'était un jeu de 2010 qui ressortait en 2021 avec rien de plus que les graphismes en haute définition.
Oui.
Donc bon, il y a des gens qui ont trouvé que c'était
beaucoup un peu
demandé
léger,
de repayer plein pot un jeu qui n'avait pas beaucoup changé. Et pourtant moi qui l'ai eu avec mon abonnement PlayStation Plus, il m'est quand même tombé des mains. Donc bon. Mais donc pour revenir à ça, le truc c'est que donc les Sonic, 1991 machin. On va pas refaire toute l'histoire. En plus, j'ai parlé en détail de Sonic 3 et Knuckles dans le premier épisode de cette saison. Hein. C'est clairement du jeu de plateforme. La légende raconte que Yuji Naka jouait à Mario en essayant d'aller le plus vite possible et que ça lui a donné l'idée de créer son propre jeu où le but serait de réussir à aller très vite. Ce qui a créé Sonic, le personnage ultra rapide. Ça donne beaucoup de débats sur quel est le rôle de la vitesse dans les jeux Sonic. Tout le monde n'est pas d'accord. La vision que moi j'en ai est elle-même pas toujours partagée avec mes interlocuteurs. Donc c'est un sujet complexe. Et en plus, le rapport à la vitesse n'est pas le même dans les Sonic en 2D et dans les Sonic en 3D.
Moi, d'un point de vue très, très extérieur, c'est vrai que pour moi, les Sonic, je pense à Sonic, je me dis c'est assez proche d'un Mario. À la nuance près que c'est un peu sous stéroïde quoi en termes de vitesse, c'est beaucoup plus nerveux quoi.
Ouais, alors en fait c'est un peu plus complexe que ça parce que en fait Mario il est très binaire dans sa vitesse. Alors que Sonic, il y a des pentes, il y a des courbes, et Sonic, il a son poids qui a une influence sur comment il va accélérer, comment il va accumuler de la vitesse. Et il y a des petits trucs, mais par exemple, si tu dans Sonic, si tu sautes pendant que tu es en train de monter une pente, tu vas sauter plus haut que si tu sautes sur du plat. Et si tu sautes pendant que tu es en train de descendre une pente, tu vas sauter plus bas que si tu sautais sur du plat.
Ouais, c'est un moteur physique un peu plus élaboré, quoi.
Voilà, c'est un peu plus élaboré. Et donc, mon opinion, pas forcément partagée par tout le monde à propos des jeux Sonic, c'est que les jeux Sonic, c'est des jeux où la vitesse est possible, mais où la vitesse n'est pas offerte. Aller vite dans Sonic 2 ou dans Sonic 3, pour parler comme un vieux con, ça se mérite avec beaucoup d'entraînement, beaucoup d'apprentissage par cœur des niveaux, pour pas se faire arrêter par ici un piège, ici un ennemi placé de manière pas très sympa. C'est pas des jeux où le but c'est, enfin c'est pas des jeux qui vont te dire allez vas-y va tout droit et fini et le niveau est passé et tu t'es rendu compte de rien.
Ouais ouais.
Le niveau il faut que tu le connaisses assez intimement avant de pouvoir commencer à aller très vite. Donc ça c'était la philosophie des Sonic en 2D, ça se retrouve encore un petit peu dans Sonic Mania, ça se retrouve un petit peu dans Sonic Superstar, même si bon Sonic Superstar c'était vraiment une déception. Et en revanche, autant le premier Sonic Adventure, quand tu joues Sonic, c'est l'extension du gameplay 2D en 3D. Il y a toujours le truc de tu sautes plus haut si t'étais en train de monter une pente, tu peux faire le spin dash pour aller vite. C'est assez impressionnant d'ailleurs de reprendre aujourd'hui Sonic Adventure et de voir à quel point Sonic se jouait comme il se jouait en 2D. Mais okay. Ça a assez vite changé. Déjà dans le premier Sonic Adventure, ils avaient pris l'idée de Mario 64 avec ses étoiles. Tu pouvais récupérer des emblèmes. Et chaque niveau, il y avait plusieurs emblèmes différents à récupérer. Et dans les niveaux de Sonic, bah, récupérer les emblèmes, ça consistait à finir le niveau normalement, puis finir le niveau en ayant un certain score, puis finir le niveau très vite. Et donc, si t'allais pas assez vite, eh ben, tu pouvais pas avoir l'emblème. Donc, il y avait l'idée qu'il y avait un certain degré de performance qui allait te permettre d'arriver à la récompense promise par le jeu. Et avoir tous les emblèmes, ben, du coup, c'était pas facile parce qu'il y avait des niveaux qui étaient un peu chauds, hein, pour réussir à faire le temps qui était demandé. Parfois, il fallait avoir une bonne maîtrise du jeu ou faire des stratégies de speedrun qui allaient pas de soi.
Ouais. Il me semble que dans Mario Galaxy, il y a des étoiles, je crois, dans Mario Galaxy.
Ouais, c'est des étoiles.
Qui me semble qui se débloquent aussi sur des épreuves timées très... très dur entre guillemets quoi, enfin genre assez exigeante quand même, tu vas probablement pas réussir du premier coup, mais effectivement oui, enfin bon après ça reste des étoiles assez rares quoi.
Il y a des trucs vénères dans Mario Galaxy sur certaines étoiles effectivement, notamment quand tu te fais courser par le Mario négatif qui fait exactement la même chose que toi mais avec quelques secondes de retard et du coup tu peux pas traîner, tu peux pas repasser par là où t'étais. Ouais, il y avait des trucs assez vénères effectivement de ce côté-là aussi. Il y a cette idée de cacher des récompenses derrière de la performance qui apparaît. Alors que dans les Sonic en 2D, t'avais l'idée de faire un high score, mais t'avais pas de récompense spéciale pour avoir fait un high score, t'avais juste fait un high score.
Le score, c'est dépendant des anneaux que tu chopes, enfin uniquement, ou c'était aussi une question de temps ou d'ennemis.
C'était aussi une question de temps. C'était okay. aussi une question de temps. Tu pouvais faire des combos d'ennemis pour faire des points.
D'accord, ouais.
Donc, il y avait plein de trucs, mais la plus grosse source de points, c'était le temps. Et le score maxi, parfois, t'avais 20 secondes pour faire le score maxi, quoi.
Ouais, ok.
Donc, mais bon, c'était que du score. Alors que déjà, dans Sonic Adventure, t'as ces emblèmes. Si tu veux les 130 emblèmes, il va falloir que t'apprennes à bien speedrunner les niveaux. Après, il y avait les autres personnages, et alors les emblèmes avec Big the Cat, je te raconte pas. Il faut pêcher un poisson qui fait ce poids-là, et puis c'est de la RNG pour qu'il apparaisse, donc
amusons-nous.
Vraiment les bonnes ambiances. C'était peut-être pas exactement de la RNG, mais c'était ultra chiant, quoi. Dans Sonic Adventure 2, ils ont commencé à faire un truc qui était un peu dans l'air du temps, hein, qui était de donner une note à ta performance au niveau quand tu finissais le niveau en fonction de ton score et du temps que tu avais mis à le finir.
Ok.
Et donc, tu avais une note qui allait de A à E, avec A, meilleur score, grande vitesse, et E, si tu avais entraîné, que tu avais fait n'importe quoi.
Ok.
Et comme dans le premier Sonic Adventure, ben c'est pareil, il y avait des emblèmes, et pour avoir tous les emblèmes, ben, il fallait avoir ce A sur tous les niveaux, ce qui était pas évident pour certains niveaux, notamment avec Knuckles et Rouge the Bat, parce que il fallait trouver les trésors très vite pour avoir le score maxi, et parfois les trésors ils étaient seedés par une RNG dans le niveau, et certaines seeds faisaient que c'était impossible d'avoir le score max.
Ça a l'air sympa.
Donc encore les bonnes ambiances. Hein.
Ouais.
Les bonnes ambiances des jeux de 2020, de 2001. Donc on commence à voir cette direction qui se fige un petit peu de ta performance en jeu, elle va te donner accès à des récompenses qui vont débloquer des trucs. Dans Sonic Adventure 2, quand tu avais tous les emblèmes, tu débloquais le premier niveau du premier Sonic, Green Hill Zone, mais en 3D. Et à l'époque, c'était révolutionnaire parce que c'était la première fois qu'ils le faisaient. Après, ils ont complètement pété les boulons et ils ont mis du Green Hill Zone partout. C'était horrible. Mais à l'époque, c'était un peu la folie. D'ailleurs, moi, j'ai jamais réussi parce que j'ai jamais réussi à avoir la note maxi à tous les niveaux. Mais bon, ça, c'est skill issues, hein, comme on dit.
Aïe.
Aïe, 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 aïe. Mais, ouais, donc...
Et t'as jamais cherché à prendre ta revanche ?
Je l'ai maintenant sur Steam, mais c'est pareil. Est-ce que je vais y jouer Nature Peinture ? Est-ce que je vais installer des mods ? Apparemment, c'est mieux avec des mods. Il y a des mods qui font que après le jeu, il est quasiment comme sur Dreamcast, mais ça a l'air chiant. Dites-nous sur le Discord si c'est chiant d'installer des mods. Non, mais moi, les seuls mods que j'ai installés, c'était pour Baldur's Gate 2 et parfois, ça faisait planter le PC, quoi, donc...
Ouais, bon, ça, je crois. Après, Baldur's Gate 2, c'est aussi un peu un jeu qui plante des fois, même si tu installes pas de mode.
Oui, ça fait partie du charme. Hein. C'était l'époque. C'était la mode à l'époque.
Vous savez, ça s'amuser.
Aussi un jeu de... Ouais, le Throne of Baal, 2001, hein. C'était
le bon l'époque. Vieux temps.
Hein. Ouais, c'était le bon vieux temps. Hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'étiez même pas nés, hein, quand on jouait à ça sur nos PC beige avec des écrans cathodiques. Et tu vois, ça a continué dans cette direction-là, en fait, parce que Sonic 2006, c'est pareil, t'as une note à la fin du niveau. Sonic Unleashed, t'as une note à la fin du niveau, et parfois les notes elles sont vraiment sévères parce que t'es censé aller vite, mais quand tu joues le hérisson garou qui se traîne le cul, aller vite c'est un peu compliqué. Sonic Colors, c'est pareil, il te donne une note à la fin du niveau. Alors là, sur les quelques niveaux que j'ai fait, j'ai jamais réussi à avoir mieux que C. Là, tu te dis, enfin, j'ai fini le niveau.
Ah
quoi,
oui. Même, ah, le jeu qui insulte ton ego, quoi.
Ouais, ouais, alors que c'est les premiers niveaux en plus, donc c'est tranquille. Enfin, c'est... je croyais qu'on était en Amérique. Mais ouais, et c'est pareil avec Sonic Generation. Alors pour le coup, Sonic Generation, c'est tout le contraire. Sonic Generation, tu peux avoir un, tu peux avoir la note S sans faire exprès à ton premier essai sur le niveau parce que le jeu il est sympa, il t'en met un peu plus quoi. C'est un peu comme les frites chez Five Guys. Mais
là, on est plutôt dans l'Amérique de Trump, tu vois, où à la fin, t'as le jeu qui te dit que c'est la meilleure note qu'il a jamais vue de sa vie, que jamais personne n'avait fait un score aussi élevé.
Ouais, c'est ça, amazing. J'ai vu tous les meilleurs donneurs de score et ils étaient tous d'accord que c'était vraiment une performance extraordinaire. Ils avaient jamais vu ça.
Et ils ont applaudi.
Et ils ont applaudi, ils ont tous applaudi pendant très longtemps. Pendant plus longtemps que la scène avec Shinji dans Evangelion. Ensuite, ouais, c'est pareil avec, je crois que Shadow the Hedgehog, t'as une note à la fin du niveau. Enfin bref, c'est vraiment devenu un standard en fait dans les Sonic en 3D d'avoir une note à la fin du niveau. Et l'autre truc qui s'est passé qui était un petit peu bizarre, c'est que, tu vois par exemple, comment il s'appelle, Sonic Heroes. Le jeu où tu joues trois personnages en même temps et t'as différentes équipes de trois personnages. Dans sa description, dans la manière dont le jeu s'auto-décrit à travers le personnage qui donne des conseils, il se décrit pas comme un jeu de plateforme. Il se décrit comme un jeu d'action. Alors, ce qui est un peu bizarre parce que, à part les jeux de gestion, et même les jeux de gestion, on peut en débattre. Est-ce que tous les jeux sont pas un peu des jeux d'action parce que tu appuies sur des boutons pour qu'il y ait des actions qui se produisent à l'écran?
Alors, c'est marrant parce que je crois que j'en ai déjà parlé en plus, mais j'ai commencé un peu à me prendre la tête sur la classification de mes jeux sur Steam. Et justement, la catégorie action pour moi, je la donne à partir du moment où tu dois faire preuve de skill entre guillemets pour réussir, enfin de skill mécanique à la manette, quoi.
Oui.
D'agilité, de mémoire musculaire, t'appelles ça, enfin ça peut être différentes composantes, il y a, enfin, dès qu'il y a une notion, on va dire, de skill, de compétence manette en main, pour moi, enfin manette ou clavier souris,
oui.
ça devient un jeu d'action. Mais du
donc,
coup,
ouais, s'il y a un risque de tendinite, c'est un jeu d'action.
Ouais, et enfin même pas forcément tendinite en fait. Enfin, je pense que t'as des jeux très, enfin qui sont assez chill, mais où tu dois quand même réussir ce qu'on te demande de faire, qui serait catégorisé comme des jeux d'action aussi. Après, pour moi, action, c'est un genre, mais jeu d'action, c'est vraiment vague, quoi. Enfin,
c'est très vague,
effectivement,
d'accord.
Avoir un. Pour moi, un RTS, c'est un jeu d'action, parce que ça a évidemment rien à voir avec un platformer, quoi. Mais je pense que pour moi, il y a trois grandes familles, on va dire. C'est plus une famille de genre. T'as les jeux d'action, t'as les jeux de réflexion et t'as les jeux de narration. Et évidemment, un jeu d'action peut être narratif aussi ou avoir de la réflexion. C'est plutôt, moi je procède un peu par élimination. Genre, s'il faut du skill manette ou clavier clavier en main, quoi.
Ouais.
C'est un jeu d'action. Sinon, s'il faut du skill en termes d'intelligence, à ce moment-là, c'est un jeu de réflexion. Et sinon, c'est probablement un jeu narratif. Je suppose qu'on doit trouver des jeux un peu ovnis qui ne sont dans aucune des trois catégories. Pour le moment, j'ai pas eu le problème. Mais toujours est-il que oui, action, c'est un terme vraiment fourre-tout. Je pense que suivant les personnes, les gens n'ont pas forcément les mêmes définitions. Il y en a qui vont l'utiliser spécifiquement pour des jeux genre FPS ou TPS. mais et pas sur grand chose d'autre. Mais
ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ta définition, c'est que si on suit ta définition, et ce serait peut-être une petite hot take intermédiaire pour cet épisode, on peut dire que Tetris, c'est un jeu d'action.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est, ça serait à mi-chemin entre action et réflexion, je pense. Mais disons qu'il faut réfléchir vite. Donc, mais je pense que c'est un peu comme les RTS d'une certaine manière. Il faut réfléchir vite et il faut exécuter vite.
Ouais, ce qui est souvent une mauvaise idée pour les jeux de puzzle. Hein. Si vous faites vraiment un jeu de puzzle, le but c'est de réfléchir. Faites pas, mettez pas au pif dedans un puzzle où il faut être ou un puzzle à exécution au milieu, quoi, parce que ça va vraiment casser les couilles à tout le monde qui joue à votre jeu. Hein.
À tout le monde, pas forcément, parce que je pense qu'il y en a qui aiment les deux genres, mais c'est sûr que si t'es un joueur qui aime pas trop le gameplay action et qu'on te dit tiens, c'est un super jeu de réflexion pour toi, et qu'au milieu tu te retrouves à être bloqué à cause d'un vieux truc où t'es pas assez agile de tes doigts pour passer, c'est, je veux dire, il y a un problème de conception, clairement. Si c'est pas quelque chose d'assumé dès le début, c'est foireux, quoi.
Ah bah complètement. Mais il suffit d'écouter l'épisode de Pragmastic sur les chevaliers de Baphomet et de voir comment les aficionados parlent de l'énigme de la chèvre dans les chevaliers de Baphomet, qui est la seule énigme avec du timing de tout le jeu. Ils sont pas contents.
Hein. Ils ah, sont ça pas se comprend. Contents.
Bah, dites-nous sur Discord si vous avez aimé l'énigme de la chèvre dans les Chevaliers de Baphomet.
Je veux dire, je pense qu'il y aura une partie clairement non négligeable ne galérera pas forcément et qui sera pas plus frustrée que ça, parce que ils aiment les deux genres de jeux, on va dire, enfin de gameplay, mais mais si tu achètes un jeu en pensant que tu vas avoir un type de gameplay et qu'en fait, au milieu du jeu, bah, tu te rends compte que c'est un autre, enfin qu'on te demande autre chose, ben forcément, tu as une bonne partie des fans du genre qui vont être frustrés, quoi.
Ouais, ben, ce qui est intéressant, c'est que ça recoupe sur ce que disait, sur ce dont on parlait au début, à savoir, tu lances Sonic Colors pour... te faire un petit jeu de plateforme tranquille, et c'est ni un petit jeu de plateforme ni tranquille, et ouais, le décalage entre ce à quoi tu t'attendais et ce sur quoi tu tombes, ça fait un peu mal au cul, quoi. Un peu comme pour parler de trucs récents, un peu comme les gens qui ont lancé Silksong après s'être bien refait Hollow Knight et être bien chaud du pogo stick bien vertical, et qui découvrent Silksong avec l'attaque en diagonale, et ils auraient mieux fait de jouer à Street Fighter, faire des dive kicks que de jouer à Hollow Knight pour s'entraîner. Il y en a que ça a un peu fait suer aussi, quoi.
Après, en vrai, ça peut être un bon truc, ça peut être bien fait, je pense. Je cherchais un exemple là depuis avant, parce que c'est vrai que ça m'est pas venu tout de suite, mais j'ai pensé à Dishonored 2. Dishonored 2, on a un niveau, enfin c'est le sixième niveau, je crois. C'est un niveau où je dévie un peu, mais je vais essayer de faire rapide. C'est un niveau où on doit passer une porte pour finir le niveau. Porte à laquelle on a accès très tôt dans le niveau. Et en fait, pour déverrouiller cette porte, enfin c'est plus une porte de coffre-fort, on va dire, pour déverrouiller cette porte, on a plusieurs options. On a le choix d'aider une des deux factions de la zone dans laquelle il y a la mission. Je crois qu'on peut aussi s'en sortir en n'aidant aucun des deux, enfin en les tuant, on va dire. Je crois qu'on arrive à récupérer une solution. Mais il y a aussi en fait la solution de résoudre une énigme pour ouvrir cette porte. En fait, il y a une énigme pour résoudre, enfin pour ouvrir la porte, et aider les factions te donne la solution de l'énigme sans avoir à y réfléchir. Et l'énigme en question, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez chercher sur internet, un zebra puzzle. Zebra comme le zèbre, et puzzle, voilà. Et c'est un jeu de résolution, enfin c'est un puzzle de résolution de contraintes en fait. Ça me paraît difficile à résumer en deux phrases. Donc si vous aimez les puzzles, cherchez Zebra Puzzle, vous trouverez des...
Est-ce que c'est le même genre d'énigme que l'énigme à la con, il y a 5 maisons et il faut trouver
où habite
l'anglais, où habite le l'allemand et OK.
C'est tout à fait ça. Tu as un ensemble d'assertions. Tu as genre 5 ou 6 bon, après ça dépend de la difficulté du puzzle, mais dans Dishonored 2, il me semble qu'il y en avait 5, il y avait 5 paramètres. Et 5 valeurs possibles pour chaque paramètre, et il fallait trouver la bonne combinaison. Et à partir d'un ensemble d'affirmations. Et c'était. Du coup, là où je veux en venir avec cet exemple, c'est que c'était un truc que j'ai trouvé super cool. Parce que, bon, déjà, j'aime bien les jeux d'action et j'aime bien les jeux de réflexion. Mais aussi, je pense que c'est pas frustrant parce que c'est une solution alternative. C'est pas du tout quelque chose qu'on t'oblige à faire. Et du coup, je pense que ça le rend. Je pense que ça rend le truc beaucoup moins frustrant puisque t'as d'autres. Si tu joues à Dishonored et que t'as envie de faire des quêtes ou de bagarrer du méchant, ben tu peux passer ce niveau juste en faisant ça, quoi. C'est vraiment une façon alternative. Et si tu veux passer avec le puzzle, ben en fait la porte, tu arrives au bout d'entre 2 et 5 minutes de gameplay sur un niveau qui va durer entre 1 heure et 3 heures suivant ton style de jeu dans ce genre de jeu. Et du coup tu peux gagner du temps en faisant travailler tes méninges, quoi.
Avec un simple tableau Excel, vous pouvez vous aussi économiser 50 minutes de gameplay.
Je me suis servi d'une feuille de papier et d'un stylo pour le coup. Je l'ai fait un peu old school, hein.
Un vrai caster junior. Ouais, c'est je vois bien du coup Zebra Puzzle ce que c'est. C'est un peu quand tu sais les résoudre ça va, mais quand tu sais pas c'est casse-couille.
C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai probablement dû en parler dans un autre épisode parce que vu qu'on utilise Discord pour parler, mais qu'en général on utilise d'autres channels pour discuter. Le dernier lien que je t'ai envoyé, c'est justement lié à Zebra Puzzle Wikipédia. Bref, désolé pour la parenthèse. Donc j'ai probablement dû en parler dans un autre épisode.
Ouais, c'est bien possible. Mais mais je vois bien. Oui, dans Dishonored, c'est un exemple où c'est sympa. Alors que dans Les Chevaliers de Baphomet, c'est un exemple où ça emmerde le monde parce que t'es obligé de le faire et que ça n'a rien à voir avec la manière de jouer du reste du jeu.
Ouais, effectivement, c'est compréhensible.
Après, on sait. De temps en temps, il y a des jeux comme ça où t'as des séquences qui ont rien à voir avec le reste du gameplay. Et souvent, le moteur du jeu, il est pas vraiment fait pour ça. Donc, la séquence en question, elle est pas ouf.
Quand c'est pas exigeant aussi, même si c'est obligatoire, si c'est pas trop exigeant, ça peut être sympa aussi. Ça peut être une sorte d'interlude pour le joueur. Mais oui, il faut pas que ce soit difficile et obligatoire, je pense.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Sinon, ça casse un peu le jeu. Et après, on peut plus trop. Surtout si on est bloqué et qu'on voit pas la fin à cause de ça, c'est vraiment ultra relou, quoi.
Je refais un plug du coup, mais si jamais il vous vient des contre-exemples de bonnes façons de proposer un gameplay différent qui soit à la fois difficile et obligatoire, parce que moi je disais avant que je pense qu'il faut pas que ce soit difficile et obligatoire. Si jamais vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas à en parler sur le Discord, parce que pour le coup ça m'intéresse.
Alors là c'est vraiment le call to action. Celui-là, faut pas le louper, celui-là. Hein. N'hésitez vraiment. I am meet limit and I approve this message. Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est vraiment à l'échelle de tout ce que tu t'attends de la franchise. Et dans un jeu, ça fait complètement autre chose. C'est un peu ce qui est arrivé, du coup, avec les Sonic en 3D qui petit à petit se sont métamorphosés en ces jeux qui sont pas vraiment des jeux de plateforme et qui sont aussi assez éloignés de la philosophie originale des Sonic en 2D puisque à partir de Sonic Unleashed qui est sorti juste avant Sonic Colors, et ça a été vrai dans quasiment tous les Sonic qui sont sortis depuis, il y a cette fameuse jauge de boost où t'appuies sur un bouton. En général, c'est une gâchette sur la manette, un petit peu comme on activerait l'accélérateur d'une voiture dans un jeu de caisse. Et tant que t'as de la jauge de boost, et ben tu cours à vitesse maximum, tu passes à travers les ennemis, t'es invincible. Et il y a beaucoup de et du coup le jeu devient plus du management de jauge de boost pour pouvoir être en boost tout le temps plutôt que de se préoccuper de comment est fait le niveau, ce qui est terrible en plus parce que ça crée aussi ce paradoxe où comme Sonic va très vite, il faut que les niveaux soient très grands pour pas que ce soit trop court. Oui. Mais comme il va très vite, le très grand niveau avec beaucoup de détails que les level designers ont créé, et bah tu le vois pas.
Ouais, effectivement.
Mais il faut qu'il soit là, parce que si jamais tu tombes en rade de jauge de boost à n'importe quel moment, il faut que le niveau existe pour que tu puisses te promener dedans.
Bien sûr.
Et ça renvoie d'ailleurs à un autre problème que les Sonic en 3D ont commencé à vraiment développer à partir de Sonic 2006, et ils s'en sont jamais vraiment remis. Le fait que comme Sonic court très vite, il faut que le moteur de jeu il rende Sonic contrôlable quand il va très vite. Et souvent, ça se fait au prix de rendre Sonic vraiment très désagréable à contrôler quand il va pas vite. Au point que le platforming de précision dans les séquences en 3D n'existe pas vraiment, parce que tu peux pas vraiment le faire avec la manière dont Sonic se comporte. Quand ça passe en caméra 2D, je sais pas quelle sorcellerie ils font dans le code, mais ils se contrôlent un petit peu mieux, donc ils font un peu plus de trucs de platforming. Bon, c'est pas non plus. Pour moi, c'est un cotter sur une jambe de bois, quoi. Je pense que le problème de fond, c'est que ils ont jamais réussi à refaire la manière de jouer de Sonic Adventure. Et un petit peu dans Sonic Frontier, qui était sorti, je crois que c'était en 2022 qu'il était sorti. Laissez-moi vérifier ça. Hop là, Sonic Frontiers. Donc, c'était sorti en 2022, c'est ça. Novembre 2022, donc je ne suis pas fou. À part Sonic Frontiers où tu dois faire des réglages en plus dans le menu du jeu pour que Sonic soit plus agréable à contrôler, on a vraiment perdu l'aspect plateforme en ayant Sonic qui va très très vite et qui du coup est désagréable à contrôler quand il va pas vite. Si vous êtes déjà tombé en rade de jauge de boost dans un Sonic avec une jauge de boost, vous savez très bien de quoi je parle. C'est vraiment pas marrant. Et pour ceux qui voient pas de quoi je parle, je vais essayer du mieux que je peux de vous décrire ça, mais...
Je pense que c'est un peu comme si tu devais marcher dans une ville américaine.
Comme si tu devais marcher à Los Angeles, ouais. Non, c'est... Disons que le saut est bizarrement raide. C'est jamais complètement sûr où va aller Sonic quand tu inclines le stick dans une direction. Est-ce qu'il va juste se retourner? Est-ce qu'il va faire un grand arc de cercle? C'est un peu la loterie à chaque fois. Les sauts sont dégueulasses. Et d'ailleurs, l'attaque auto-guidée, dont on comprend que c'est difficile de faire sans dans un environnement 3D, bah, ça devient tellement une béquille que juste le saut de base, il s'en tape royalement. Et quand on a besoin, bah, c'est vraiment, vraiment la galère. Et donc, bah, on se retrouve avec ces jeux. Et dans le cas de Sonic Colors, c'est ultra marqué, où il y a une barrière d'exécution assez élevée, avec des séquences de boutons qu'il faut bien maîtriser pour avoir le meilleur score, faire des figures, faire des acrobaties, faire des trucs stylés pour améliorer sa note à la fin du niveau, avec du platforming dégueulasse qui marche pas du tout. En fait, petit à petit, ces jeux Sonic, c'est devenu quelque chose de très différent de jeux de plateforme, et ça va être ma hot take pour cet épisode. Finalement, Sonic Colors, c'est un jeu qui a moins à voir avec Sonic 1, 2 et 3, et qui a plus à voir avec un Devil May Cry ou un Bayonetta.
Intéressant. C'est... sachant que je suis en train de regarder en même temps une vidéo de Sonic Colors, c'est vrai que c'est... j'ai pas trop joué j'ai jamais joué à Devil May Cry, donc je vois pas trop le rythme, mais effectivement Bayonetta, c'est dans le genre, je crois que c'est un jeu assez assez nerveux, quoi. Donc
ah oui, c'est bien nerveux Bayonetta.
Donc j'avais fait les deux premiers, mais c'était il y a quelques temps, et c'est vrai que là c'est assez rapide.
Ouais, ça va vite, t'es noté sur la qualité de ton exécution, les passages de plateforme sont dégueulasses, tous les ingrédients sont réunis.
Ah ouais.
Et je pense que c'est pour ça que le jeu nous est tombé des mains, parce que on voulait jouer à Sonic et on se retrouve à faire des trucs sur la manette qu'on ferait plutôt dans un jeu à la Devil May Cry, et ben, quand t'as pas signé pour ça, ben, forcément c'est un peu compliqué.
Effectivement, c'est pour le coup je pense que tu t'en rends compte vite en y jouant, c'est pas contrairement genre au Chevalier de Baphomet où on te met ça au milieu du jeu, où tu découvres ça au milieu du jeu, mais effectivement si t'es un fan de Sonic, tu connais les jeux Sonic, tu sais à quoi t'attendre, enfin tu penses savoir à quoi t'attendre en achetant un jeu Sonic, et que bah en fait t'as l'impression qu'on t'a un peu menti sur la marchandise, quoi.
Ouais, c'est ça, et puis bah surtout voilà, c'est le premier niveau, il y a pas de contexte, il y a pas d'histoire, alors tu te dis ah ouais c'est cool, c'est comme à l'époque, et puis bon tu tombes dans un trou, tu tombes dans deux trous, tu tombes dans trois trous, et puis tu finis péniblement le niveau, et puis allez prends ton E espèce de paysan, et puis si t'es sage tu iras au deuxième niveau. c'est dur, hein.
Ouais, effectivement, je comprends le que ça puisse
Alors qu'en fait, en plus, le truc, c'est que je pense que une fois que tu acceptes que ça va être plutôt un challenge d'exécution exigeant, et que c'est pas forcément la peine d'espérer avoir un A partout dès le début, je pense qu'il y a des choses à tirer de ce jeu. Mais bon, ça vient entrer en conflit avec les autres jeux dans le backlog, ça entre en conflit avec le temps qu'on arrive à dégager. Comme on le disait avec Vincent dans un autre épisode, dans une autre saison, y a pas mal de gens qui arrivent à un âge où ils jouent en facile quand les enfants dorment.
Oui.
Donc, pas forcément...
Il y a une question d'état d'esprit aussi. Tu le sais, il y a des jeux sur lesquels j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, pas parce que je considérais le jeu mauvais, mais parce que j'avais l'impression que le jeu n'était pas du tout, enfin j'avais pas du tout abordé le jeu de la bonne manière. L'exemple qui me vient le plus à l'esprit, c'est le premier Darksiders.
En fait, ouais, je savais que tu allais dire ça.
Le premier Darksiders, c'est le prologue, en fait, la première demi-heure de jeu, où tu es surpuissant, t'as l'impression de jouer à un jeu un peu dans la même veine que Bayonetta.
Tout à fait.
Et en fait, quand à la fin du prologue, spoiler alert, le personnage principal perd ses pouvoirs. Et en fait, on se retrouve à jouer à Zelda Ocarina of Time. Hein. Et en fait, le truc, c'est que j'ai essayé 5 fois ce jeu, je crois, en ayant arrêté au bout d'une heure à chaque fois. Parce que effectivement, je trouve que le prologue ne te prépare pas vraiment à ce que va être le jeu, en fait. Enfin, même pas du tout. Et il y a eu une fois où, je sais pas combien d'essais ça a pris à partir du moment où tu m'as dit qu'il fallait pas que je le voie comme un Bayonetta, mais que je le vois comme un Zelda Ocarina of Time. Et je sais que ça a pas pris du premier coup pour autant, parce que j'avais pas réussi à vraiment être dans cet état d'esprit. Mais à partir du moment où j'ai réussi à l'être, j'ai beaucoup aimé le jeu.
Ouais, ouais, Darksiders, valeur sûre, hein, premier Darksiders, franchement, c'est un jeu de son époque, donc il est pas très long, parce qu'à l'époque, les jeux qui sortaient, ils étaient pas si longs que ça, c'est une recommandation que je fais assez tranquillement, le jeu, il se fait bien, bonne ambiance Zelda, le perso est marrant à jouer, donc vraiment, allez-y tranquille. Ça doit en plus se trouver pour une bise et un coca sur Steam, quoi, donc vraiment.
Et comme dit, si vous essayez et que vous faites le prologue et que pendant le prologue vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec Zelda Ocarina of Time, bah, finissez le prologue et jouez un petit peu après encore, et là vous verrez un petit peu plus. Mais c'est vrai que le prologue n'est pas du tout représentatif de l'expérience de jeu, en fait.
Oui, la Zeldaïté du jeu n'apparaît pas dans le prologue.
Ouais. Clairement.
Bah écoute, je pense que sur cette chouette recommandation d'un autre jeu de 2010, on va pouvoir se dire au revoir sur ces bonnes paroles. Merci Harold d'être venu parler de Sonic et de Devil May Cry avec moi.
Et Dishonored. Et merci beaucoup à toi, Tim, de m'avoir invité.
Et je vous rappelle que Texas Slowburn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à vous rendre sur studiocartonc.fr pour voir tous les différents podcasts que vous pouvez écouter. Vous pouvez bien sûr rejoindre le Discord, envoyer un mail à hottex.slowburn@gmail.com. Vous pouvez laisser un avis sur votre podcatcher préféré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de l'épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Vous trouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. On se retrouve le mois prochain, et puis d'ici là, je suis toujours Mythlamite, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde!